Nous allons faire deux lectures pour poursuivre ce sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs semaines, à savoir le couple et la famille. Nous allons faire une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, au verset 3. Proverbes, chapitre 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science ou la connaissance, en fonction des versions, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il nous est parlé d'une maison, la façon de voir cette maison s'édifier et se construire. Il nous est dit que c'est par la sagesse, par l'intelligence et par la connaissance. Nous y reviendrons certainement tout à l'heure si nous avons le temps. Dans Tite, au chapitre 2, il y a une définition de la grâce, parce que je crois, mes frères et sœurs, que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Pour beaucoup de gens, la grâce, c'est très aléatoire, ça ressemble plus à de la magie qu'à ce qu'elle est véritablement. Vous savez qu'il est, il est dit que la magie fait partie des œuvres de la chair. C'est-à-dire qu'on attend les choses comme ça, sans effort. On verra bien. C'est une forme de magie. Et la grâce, ce n'est pas ça du tout. Pour beaucoup de chrétiens, la grâce, on verra bien ta grâce, Seigneur. Mais regardez certainement la meilleure définition de la grâce dans le Nouveau Testament, Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Pour moi, en tous les cas, c'est une définition très, très profonde de la grâce. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez le verset 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà une définition très sérieuse de ce qu'est véritablement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une vertu sur laquelle nous nous déchargeons. Si c'est de Dieu, ça va marcher tout seul parce que la grâce de Dieu est là. Si c'est pas de Dieu, on va avoir des problèmes. Mes frères et sœurs, cette analyse n'est pas correcte du tout. Le Seigneur a dit aux apôtres, faites des disciples et enseignez-les. La grâce, vous l'avez là dans le verset 12, elle nous enseigne. Moi, j'entends des définitions de la grâce qui sont très, très, très superficielles et qui ne sont pas du tout bibliques. La grâce, elle nous enseigne. Faites des disciples. Nous devons apprendre les instructions. Le texte qu'on a lu dans les Proverbes nous le rappelle. Les instructions pour notre vie, les instructions pour la famille. Vous savez, il y a des choses qu'on apprend en les lisant dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, ta grâce me suffit, j'ai pas besoin de lire, j'ai pas besoin de prier, moi j'ai confiance en Dieu. Moi, la confiance en Dieu, sans la prière et la connaissance de la parole de Dieu, je me demande où ça va nous amener. Vous savez, et on va lire un autre verset pour expliquer que la communication ou la communion, c'est pour ainsi dire le même mot. Dans Éphésiens, au chapitre 4, il nous est parlé de l'importance de marcher dans la vérité. Je vous donne des versets ce soir. Je ne sais pas si je poursuivrai cette étude. En tous les cas, je voudrais terminer celle de ce soir en faisant peut-être un appel pour que vraiment ceux qui ont besoin d'une victoire, peut-être même d'une délivrance, d'une guérison, puissent obtenir la prière des anciens ce soir. Dans Éphésiens, au chapitre 4, il y a par exemple au verset 25, un principe. Vous savez, on communique plus par ce que l'on est que par ce que l'on dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un des premiers enseignements que j'ai reçus du pasteur qui m'a formé. Il me disait, la vérité, ça se vit. Parce qu'on peut la dire et pas vraiment la vivre. La vérité, ça se vit. Le verset 25 du chapitre 4, c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Regardez au verset 15 de ce même chapitre. C'est ce verset d'ailleurs que le pasteur avait utilisé pour m'expliquer ce que je viens de vous dire. Mais en professant la vérité. Il y a une grande différence entre confesser et professer. Confesser, c'est dire. Professer, c'est vivre. Voilà, vous avez des professeurs parmi nous, hein, plusieurs. Hein, les professeurs, on professe, on vit la vérité. Professer la vérité. Que chacun dise la vérité à son prochain. À son prochain. Qui est le prochain? Qui est le prochain le plus proche? Oui, madame, dit monsieur de Dieu. Eh oui. Le prochain le plus proche, c'est le conjoint, c'est les enfants, c'est les parents, c'est celui qui est le plus proche, le prochain. La communication, C'est quelque chose d'important déjà dans la vie de l'Église. Important de communiquer. On a chanté à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez, c'est bien d'avoir de la compassion pour les foules perdues qui habitent au Cambodge, au Laos et au Vietnam et en Asie. Je crois que c'est bien, mais je crois que la compassion, ça devrait peut-être commencer dans le foyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est bien, et que Dieu fasse. Mais c'est vrai que c'est facile d'aimer des gens à 8000 kilomètres que nous ne verrons jamais. C'est facile, entre guillemets, de les aimer. C'est beaucoup plus difficile d'avoir de la compassion pour les propres frères et sœurs de l'Église qui sont en difficulté. Et là, je crois que la communication, ça commence comme ça. Dire, je veux, après tout, aimer mon prochain. Tu aimeras ton prochain. Et je le répète, le prochain, c'est celui qui est le plus proche de vous. C'est donc les personnes qui vivent dans votre maison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce que je vais vous dire, mais moi, je l'ai entendu une ou deux fois. Dans la bouche de chrétiens, bien entendu. Oh, je ne sais pas si je ne devrais pas me séparer de mon mari pour mieux évangéliser. Alors écoutez, moi, je ne pense pas que le mariage puisse être une entrave vraiment pour servir le Seigneur. Bien sûr, si vous êtes marié, si vous êtes marié avant votre conversion avec un mari, ou si vous êtes marié avec une épouse qui ne connaissait pas le Seigneur, je comprends que vous n'ayez pas pu faire tout ce que vous vouliez. Mais je crois qu'il faut commencer peut-être à évangéliser ceux qui, dans notre famille, ne sont pas encore au Seigneur. Comment ? En vivant la vérité. Je crois qu'un chrétien, il cherche à prendre soin de sa famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, comment aura-t-il soin de l'Église de Dieu ? La communion ou la communication, c'est une question de logique. Et ça commence, je crois, par ce que nous allons voir, par l'écoute. Nous sommes dans les Éphésiens. Si vous allez un petit peu plus loin dans l'épître de Jacques, c'est bien que nous les lisions ensemble. Parce que vous savez, ce sont des versets clés. Vous savez, il y a de l'enseignement, ce n'est pas important si vous ne le savez pas. Si vous ne connaissez pas tout l'enseignement sur le millénium, je vous dis, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a des versets clés qui font de nous de véritables disciples. Jacques, chapitre 1er, par exemple, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme... Alors, qu'est-ce qu'il est demandé ? Tout homme, toute femme, soit prompt à écouter. On l'a lu l'autre jour dans le Proverbe, chapitre 1er, pour recevoir, pour comprendre, pour donner, etc., etc., que le sage écoute. Alors la question que je nous pose ce soir, est-ce que je peux la poser ? Depuis quand je n'ai pas écouté l'autre ? Celui qui est à côté de moi, celui qui a besoin de moi. Parce que parler, c'est bon, c'est bien. Mais depuis quand je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris du temps pour écouter ma femme ? Depuis quand je n'ai pas pris de temps pour écouter mon fils ? Parce qu'on peut beaucoup parler, mais sans communiquer vraiment. On peut parler de tout un tas de choses, on peut échanger des formalités, on peut parler sur le dernier modèle de telle voiture, je ne sais pas, de telle marque. On peut parler de beaucoup de choses sans échanger véritablement. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'on peut parler continuellement de choses, de banalités ? Oui, on peut parler sans véritablement communiquer. Quoique ça peut commencer par des banalités. On peut parler de choses. Tiens, tu as vu ce qui s'est passé l'autre jour dans cette affaire, ce car qui a été renversé. Vous savez, ces enfants, on peut parler d'informations. Ce n'est pas interdit de parler. Je ne dis pas que ce sont des choses banales, bien entendu. Mais on peut parler de choses qui ne vont pas forcément améliorer la communication dans la famille. Mais on peut parler de choses, de faits divers, de banalités. Ce n'est quand même pas interdit. On peut partager des opinions, on peut partager des émotions, on peut partager tout un tas de choses. Mais si nous voulons véritablement être des disciples, je crois qu'il faut travailler une véritable communication. Il y a des choses, on a besoin d'en parler dans le foyer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle est l'orientation que nous allons donner à notre foyer ? Est-ce qu'à tout âge, on peut donner une nouvelle orientation à un foyer ? Moi, je le crois. Est-ce que dans la vie spirituelle, mais dans la vie de chacun, il y a besoin de communication. C'est sûr que si on partage que des banalités, ça ne va pas donner grand-chose. Il ne faut pas oublier, parce que ça quand même j'y tiens, c'est peut-être ma réaction par rapport au TTS. Vous savez ce que c'est les TTS ? Vous savez ce que c'est ? Les très très spirituels. Hein ? Alors je l'ai entendu ça une fois, et il y a des gens, ils sont tellement spirituels qu'ils spiritualisent absolument tout. Mais moi je crois qu'il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes spirituels. Il y a des problèmes qui sont humains, terrestres. Il y a des problèmes de bon sens, et on va en parler certainement. Et si on spiritualise tout, ça risque de donner de fausses données. Et si on ne veut pas communiquer, on va refouler des jours, des semaines, des mois, des années. Et un jour, vous connaissez l'expression, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et on se dit, pourquoi ils ont divorcé? Eh bien, pour cette affaire-là, monsieur. Mais vous comprenez bien que ce n'était pas pour cette affaire-là. Ça faisait des années qu'il n'y avait plus de communication. Écouter, c'est quelque chose d'important. On ne provoque pas un débat en disant, mais j'en ai marre, personne ne m'écoute. J'en ai marre. Personne ne m'écoute. Mais je crois que ça commence, on commence par écouter l'autre. Vous savez, tout à l'heure, je lisais le Deutéronome. Et les Juifs disent que le premier commandement, c'est pas tu adoreras le Seigneur ton Dieu, on va le lire. Dans les synagogues, c'est enseigné, je l'ai entendu par plusieurs pasteurs qui l'ont dit ça. Regardez quel est le premier commandement que les Juifs citent pour expliquer l'importance de ce sujet qu'on est en train de traiter ce soir. Regardez, Deutéronome chapitre 5, verset 1er. Vous savez que c'est les 10 commandements. Je l'ai entendu plusieurs fois ça, dans des méditations, dans des livres, etc., que le premier des premiers commandements, il est résumé dans ce mot, Deutéronome chapitre 5, verset 1er, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Écoute Israël. Et je crois que sans vouloir exagérer, ce n'est pas déformer la parole de Dieu que de dire écoute Église du Seigneur Jésus. Écoute. Je crois que la véritable communication, ce n'est peut-être pas de parler, mais c'est de commencer à écouter, d'apprendre à écouter, savoir rentrer en soi-même, et nous, chacun de nous ce soir, être capable de se poser la question, mais est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre? Je me suis rendu compte de l'importance de l'écoute quand j'ai fait mes premières visites, quand je suis rentré dans le ministère. J'allais voir des grand-mères de l'église, je faisais mes premières visites, et ces grand-mères avaient besoin de parler, elles parlaient, puis on ferait leur s'achever, on terminait en priant, et en partant, ces sœurs me disaient « Ah, merci Gérard, tu m'as fait beaucoup de bien. » Moi, je repartais en voiture, je lui dis « Qu'est-ce que tu as pu leur dire? Tu n'as rien dit. » Et j'avais rien dit. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et puis j'en ai parlé au pasteur, je dis « Quand même, je dois avoir un petit problème. » J'ai rien dit, elles m'ont dit « Tu leur as fait du bien. » Et le pasteur me disait « Mais tu sais, de les écouter, ça leur a fait du bien. » Et j'ai appris une grande leçon qui est biblique parce que ce n'est pas « Soyez prompt à parler », il est dit, soyez prompt à écouter. Et c'est vrai que ça demande un effort. C'est pour ça qu'on ne peut pas désolidariser la vie humaine de la vie spirituelle. Parce que ça demande un effort. Pourquoi Jésus demande-t-il, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même? Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas dans l'amour un véritable renoncement? Quelqu'un qui veut se marier, il faut quand même qu'il accepte qu'il y a une part de renoncement dans le foyer. Il faut l'accepter. Celui qui ne veut pas accepter ça, il va au-devant de difficultés. Dans l'amour, le véritable amour que Jésus nous enseigne, il y a une part de renoncement. Et ça demande du temps d'écouter. On n'a pas le droit de se décharger. Quand des parents, je ne sais pas ici, je ne l'ai jamais entendu ici, je ne me souviens pas l'avoir entendu, mais je l'ai entendu dans d'autres églises, quand des parents se déchargent de l'éducation spirituelle de leurs enfants sur les animateurs de l'école du dimanche. Est-ce que c'est sérieux, ça? Combien d'heures les enfants de l'église passent-ils à l'école du dimanche? Par mois. S'ils sont là à tous les cultes, ça va faire peut-être 8 heures. 8 heures, s'ils sont là à l'heure. 8 heures par mois. Est-ce que des parents très consciencieux peuvent se décharger de l'éducation spirituelle de leurs enfants sur les animateurs de l'école du dimanche? Ça ne fait pas sérieux du tout, vous comprenez? Et on est dans un monde qui se déresponsabilise de plus en plus. Et nous n'avons pas le droit de nous décharger sur les autres. Vous savez, dans le foyer, il s'en passe des choses. On en passe du temps dans un foyer. Et c'est là qu'on doit vivre l'authenticité de la foi. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits et que tout ce que nous partageons depuis 6 réunions, ce n'est pas pour faire un procès et pour dramatiser. Mais c'est pour que nous comprenions que même si nous ne sommes pas parfaits, il n'y a aucun mari parfait. Il y en a un mari parfait? Une femme parfaite? Mais voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est ce qu'elle vient de dire, c'est ce que vous vouliez dire. Oui. Hein? Mais il y a, Mais c'est pour cela qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Mais mes frères et sœurs, ce soir, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes là, nous sommes tous sérieux, nous avons envie d'aller plus loin. Est-ce que nous ne voulons pas améliorer la communication? Cet après-midi, en préparant cette étude, j'allais dans des textes bibliques pour étayer ma prédication et je pensais à 1 Corinthiens 13. Tiens, on va le lire, quelques versets, deux versets. 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce fameux chapitre? Dites-moi, est-ce qu'on le lit assez souvent, ce chapitre 13 d'1 Corinthiens? On croit le connaître par cœur, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais mes frères et sœurs, c'est pas un beau chapitre ça, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 4, 5 et 6. Les vertus de l'amour, lorsque l'on développe la communication. Parce que moi je crois que dans l'écoute, quand on écoute quelqu'un, on l'aime, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens, ils nous fatiguent, c'est vrai aussi. Mais je crois que ça se travaille l'écoute. Vous avez jamais eu affaire à des gens qui... Non? Vous avez jamais eu affaire? Mais vous avez de la chance, je vous le dis. 1 Corinthiens 13, versets 4, 5 et 6. Regardez ces vertus de l'amour que nous devons, chacun d'entre nous, développer. L'amour est... Oui, il est plein de bonté. Plein, hein? L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. On y viendra tout à l'heure. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bon, je ne sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 18 points. Je ne sais pas compter, mais il me semble avoir compté il y a longtemps. 18 points qui pourraient servir justement de séminaire, de point d'appui pour un autre séminaire sur véritablement le couple et la communication. Est-ce que nous voulons améliorer la communication, mais déjà entre nous. Est-ce que c'est important de bien communiquer? Hier soir, j'en parlais au conseil d'administration, mais pour moi, je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui me connaissez maintenant depuis 10 ans, pour moi, c'est vital. Je dois absolument travailler dans une réelle communication. Il m'est impossible de travailler sans une véritable communication. C'est valable dans le conseil et c'est valable dans mon foyer également. Et pour cela, il faut peut-être apprendre à bannir certaines craintes. La Bible dit, mais bannissez la crainte, bannissez la frayeur, bannissez l'inquiétude. Est-ce que dans un couple, on peut avoir peur de parler? Est-ce que ça peut arriver d'avoir peur de dire certaines choses? La peur de ne pas trouver les mots justes, parce que des fois ça arrive, on se marie, un mot veut dire une chose pour l'un, et le même mot ne veut pas dire la même chose pour l'autre. Oui ou non? Alors on a peur de ne pas trouver les mots justes, et rien que la peur de ne pas avoir les mots qu'il faut peut bloquer le dialogue. Moi je l'ai vu ça. On ne se comprend jamais, parce que, et moi je le vois, même avec mon épouse, quand on s'est marié, il y avait des mots, elle vient d'une famille pied-noir espagnole, moi je viens de la campagne profonde du Tarn, alors je peux vous dire qu'on n'avait pas forcément la même signification de certains mots, croyez-moi, et qu'on a eu parfois des petites prises de bec, et même des grosses prises de bec, parce qu'il y avait certains mots qu'on n'interprétait pas de la même manière. La peur, c'est vrai ce que je vous dis, la peur de ne pas trouver les mots justes. La peur d'être rejeté si on dit ce qu'on pense. Si je dis tout ce que j'ai sur le cœur, qu'est-ce qu'on va me dire? C'est vrai ou c'est pas vrai? La peur que ça ne serve à rien. On va peut-être discuter, mais est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? La peur d'avoir tort. La peur de dire, mais ça va empirer les choses, parce que c'est déjà arrivé que dans des discussions, on a dit, mais si j'avais su, si j'avais su, j'aurais rien dit. La peur. La peur peut empêcher le partage. Et ça, il faut veiller à ce que nous bannissions certaines craintes de notre vie, parce que je crois que Dieu nous a créés pour qu'entre frères et sœurs, on puisse communiquer, on puisse parler dans la paix. On a parlé dimanche de l'intersoumission, combien ça facilite le dialogue d'être soumis les uns aux autres. Il peut y avoir aussi des mauvaises attitudes. Je parle trop, donc l'autre ne peut pas s'exprimer. Ça arrive ça. Moi j'ai reçu des coups dans mon bureau. La femme a parlé 1 heure, le mari, on n'a pas entendu une fois. Ou l'inverse. Ça arrive aussi, ne vous inquiétez pas. Mais le premier cas est plus commun. C'est vrai. Ce n'est pas normal. Je pense que chacun devrait s'exprimer dans un couple. Vous croyez pas, hein? Quelque chose qui peut être mauvais. Je n'ai pas de communion avec Dieu. Donc, je peux cacher certaines choses. Vous savez, quand on n'a plus de communion avec Dieu dans un couple, vous l'avez peut-être vécu à certains moments donnés. On a baissé la garde, on a un petit peu descendu dans la communion et on a eu
On a caché les choses, on n'a pas osé les dire. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Peut-être des mauvaises attitudes, vouloir toujours chercher à se justifier. Je n'écoute pas, donc j'irrite l'autre. Moi, ça m'est souvent arrivé, mais elle me dit, mais tu écoutes rien. Dernièrement, j'étais dans un garage, et j'y pensais cet après-midi. Et il y avait un gars qui était furieux contre le garagiste. Il lui a dit, mais vous rendez compte, il avait explosé son pneu à 2 km, dont il revenait à pied. Et il vous rendez compte, pourquoi vous ne m'avez pas changé le pneu? Et le garagiste, je suis arrivé juste à ce moment-là. Et le garagiste lui dit, mais je vous ai dit de ne pas rouler avec ces pneus et vous ne m'avez pas écouté. Il me dit, mais non, vous ne me l'avez pas dit. Et le garagiste, je voyais que franchement, le garagiste, il disait la vérité. Puisqu'après, il me l'a dit, mais je lui avais dit, il ne m'a pas écouté. Et je crois que des fois, on peut nous dire les choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on n'écoute pas. Par exemple, mon épouse m'a dit peut-être 100 fois, Gérard, quand tu prêches, finis tes phrases. Et il a fallu qu'un frère me dise un jour, Monsieur Gault, quand vous prêchez, vous n'avez pas remarqué que des fois, vous ne finissez pas vos phrases. Et quand il me l'a dit, je me suis dit, mais c'est la folie, j'ai honte, j'ai été lui dire. Elle me dit, ah, tu te rends compte, il a fallu que quelqu'un d'autre te le dise. Et elle me l'a dit 50 fois, 100 fois. Mais soyons honnêtes, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on n'est pas prêt à recevoir certaines choses de personnes qui sont à côté de nous. Que c'est dommage. Et ça, ce sont des mauvaises attitudes. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça se corrige. Vous croyez qu'on peut corriger des mauvaises attitudes? La bonne communion fraternelle. C'est pour ça que dans une église, il faut absolument veiller à ce qu'il y ait une véritable communion fraternelle. Et vous savez, toutes ces attitudes, on peut dire, mais tout ça, c'est de la psycho. C'est pas de la psycho, c'est de la vérité. Parce que ce n'est pas une question de théologie ou de doctrine. Il y a des choses qui sont liées à la théologie, liées à la doctrine. Mais il y a des choses, la saine doctrine, c'est quoi la doctrine? La saine doctrine. La Bible nous demande de veiller sur la saine doctrine. Est-ce que Paul en parle de la saine doctrine? Mais il parle aussi du comportement. Est-ce que la vraie doctrine ne touche pas le comportement aussi? Bien sûr, on le voit bien, toute la doctrine touche notre façon de nous comporter. Parce que si on pense que la saine doctrine, c'est le troisième ciel, et l'eschatologie, et la fin des temps, et le troisième temple, et le parler en langue, etc., etc., ça fait partie de la saine doctrine. Mais la saine doctrine, c'est un comportement sain, S-A-I-N. La saine doctrine ne peut que produire un comportement sain, oui ou non? Il faut le comprendre, ça. Quelqu'un qui marche dans la saine doctrine, il va avoir un comportement sain. Le contraire de sain, c'est être malade. Un chrétien qui a une saine doctrine, il doit avoir un témoignage sain. S-A-I-N. Je le pense vraiment. Je crois que c'est important de veiller sur son témoignage à l'église. Ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps à l'église. C'est déjà un petit peu plus difficile par rapport au travail parce qu'on passe beaucoup plus de temps au travail. Mais c'est bien peut-être de veiller à être aimable à la maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On est sauvé bien sûr de l'enfer, mais on est sauvé aussi de certaines choses qui sont nuisibles. On est sauvé de l'égoïsme, on est sauvé de l'orgueil, on est sauvé de la mentalité du monde. Crois au Seigneur Jésus. Ça veut dire, fais ce que le Seigneur te demande. Fais ce que Dieu te croire à Jésus, c'est pas croire qu'il existe. Je fais ce que le Seigneur me demande. Parce que ça ne pourra jamais marcher si les femmes disent, voilà, la Bible dit, fais ça, toi, les maris doivent faire ça. Si les maris disent aux femmes, toi, sois soumise. Si les enfants, ils commencent à dire aux parents ce qu'ils doivent faire, si les parents disent aux enfants, on ne s'en sortira jamais. Mais si chacun d'entre nous, nous sommes responsables, voilà le mot qu'il faut, si nous sommes responsables, et si nous disons Seigneur Jésus, tu me vois ce soir, moi je veux exercer mes responsabilités. Dans le foyer où tu m'as placé, je veux vraiment faire ta volonté. Je voudrais que nous lisions le dernier verset de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous le connaissez. Certains ont dit que quand on a quelque chose d'important à dire, on le dit à la fin ou au début. Il y a des gens, quand ils ont des choses importantes à dire, ils le disent à la fin. Je lisais l'Apocalypse ce matin et à la fin, on voit Jésus qui dit oui. Il termine en disant « Je viens bientôt ». Moi, je trouve que c'est important. Le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est dans le prophète Malachie, au chapitre 4, verset 6, bien entendu. Regardez ce verset extraordinaire. Moi, je crois que c'est un verset extrêmement important. Il parle quand même de la famille. Malachie, chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le dernier verset de l'Ancien Testament aurait pu être une introduction à l'Église, puisque ça va être la dispensation de l'Église qui va être entraînée. Eh bien, le dernier verset de l'Ancien Testament parle de la famille. En plus, il y a un ajout de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si la famille est en péril, que si les familles sont déchirées, le pays est en danger. Voilà ce que ça veut dire. Comment un pays peut-il prospérer si les familles sont malades? Vous croyez pas, mes frères et sœurs? Comment un pays peut-il être béni? Vous savez, l'Évangile a des implications spirituelles, bien sûr, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que des implications spirituelles. Il y a des implications sociales et familiales. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais M. Gault, l'Évangile, c'est d'abord un message spirituel. Oui, mais le spirituel aborde le problème temporel. Jésus en parle aussi, rendez à César ce qui est à César. Et il touche aussi le domaine matériel. Il y a une bénédiction. J'ai cité le texte que l'apôtre Paul cite au geôlier de Philippe. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a des principes spirituels qui amènent la bénédiction sur la famille. On ne peut pas être sauvé sans rien faire. Quelqu'un a dit, mais moi, ma famille sera sauvée. Moi, je suis converti, donc ma famille sera convertie. Ah bon, mais c'est merveilleux. Parce que Jésus a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Attendez, la famille sera sauvée si elle se repent aussi. Mais vous comprenez, on en arrive à faire... Mais je l'ai entendu ici, ça, je l'ai entendu. Ici. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai que Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a aimés. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais le salut est conditionnel. Il faut que chacun passe par une véritable repentance. On collabore par la foi pour obtenir le salut de notre âme et il faut prier pour les enfants de notre famille. Ce n'est pas parce que moi je suis sauvé que toute la famille va être sauvée. Ce n'est pas sérieux. Quand nous nous convertissons, nous passons par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Oui ou non? Quelqu'un qui est converti, ça se voit. Il passe par la nouvelle naissance. Il y a des gens, moi, qui me disent, vous savez, moi, je me suis converti, ça n'a rien changé. J'ai dit, oui, mais vous n'êtes pas converti. Vous êtes passé d'une église à une autre. On peut changer d'église, on peut même changer certains principes et certaines habitudes sans passer par la nouvelle naissance. Il y a des gens qui passent par la fenêtre, alors que Jésus dit, je suis la porte. La porte, c'est la croix, la porte, c'est la repentance, la porte, c'est la conversion, la nouvelle naissance. Et beaucoup de gens entrent dans les églises par la fenêtre de la gentillesse, de la communion fraternelle, tout ce que vous voudrez. Un chrétien qui passe par la nouvelle naissance, il reçoit une nouvelle éducation. Nous sommes des disciples. Un chrétien, il est enseignable. Oui ou non? Un chrétien qui n'est pas enseignable, ou alors il a un fichu caractère, ou alors il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Parce qu'il n'est pas possible d'entrer dans les promesses et dans les bénédictions du Seigneur si nous n'entrons pas dans l'éducation que le Seigneur nous propose. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites des disciples et enseignez-les. Écoute Israël. On l'a lu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée, elle nous enseigne. Un chrétien, c'est certainement la raison de notre présence ce soir, il a besoin d'être enseigné, il accepte d'être corrigé, on dit il est corrigible. Et c'est vrai que parmi nous ce soir et parmi tous ceux qui écouteront cet enseignement, il y aura certainement tous les cas de figure qui puissent exister. Mais la conversion... C'est incontournable, elle a des conséquences familiales, sociales, etc. Si le spirituel ne descend pas au niveau de l'humain, moi je me demande quelle est cette sorte de spiritualité. Jésus l'a dit d'ailleurs, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il y a des réflexions que j'ai déjà développées, plus ou moins, avant le mariage. Et je réjouis que les jeunes de l'Église aient eu envie de participer à ce séminaire. Vous savez, il y a un proverbe français qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». C'est un proverbe, il est excellent. C'est pas parce qu'il n'est pas biblique qu'il n'est pas bien. Il y a des proverbes humains qui sont très, très, très intelligents. Et les fondements d'une maison, il vaut mieux les placer avant, les bons fondements, il vaut mieux les placer avant que de bâtir n'importe comment et de devoir tout redémolir. Parce que c'est ce qui se passe souvent, les gens, ils ne veulent pas écouter.
Moi, je peux vous dire que j'ai pleuré souvent dans mon bureau, souvent, parce que les gens ne veulent pas nous écouter. Et c'est quand même terrible. Bien sûr que tout est possible à Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas le réparateur des brèches? Et je ne voudrais pas que quelqu'un ce soir se sente frustré de dire « Mais moi, j'ai construit n'importe comment, j'ai fait n'importe comment, alors c'est fini pour moi. » Non, je crois que Dieu est bon. Et je crois que Dieu guérit et qu'il ne brise pas le roseau cassé et qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Je crois que Dieu, le Dieu a osé s'appeler. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché lorsque j'étais un légaliste et ça m'a corrigé. Dieu est le Dieu de Jacob. C'est beau d'oser s'appeler comme ça, le Dieu de Jacob. Oui, notre Dieu est le réparateur des brèches. Avant le mariage, les jeunes, je reviens là-dessus. Je ne pensais pas avoir à y revenir, mais c'est que peut-être quelqu'un aura besoin de l'entendre. Avant le mariage, le choix d'un conjoint, c'est quelque chose de sérieux. Quoique, il peut se produire qu'on puisse choisir un conjoint à tout âge. Le veuvage, quelqu'un qui est célibataire, un vieux célibataire, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. Le choix d'un conjoint, ce n'est pas de la loterie. J'entends, moi, parfois, j'espère que je tomberai sur le bon numéro. Alors, écoutez-moi, la loterie dans l'église, ça ne va pas aller loin, ça. Mais on l'entend, ça. Moi, j'ai tiré le bon numéro. Je l'ai entendu. Bon, c'est une façon de parler, j'en conviens. D'accord. Mais c'est beaucoup plus sérieux que cette façon de parler. Je crois que le choix d'un conjoint implique la réflexion spirituelle et humaine. Écoutez-moi, j'ai été très choqué au début de ma conversion de voir tous ces gens d'ailleurs ne sont plus dans le Seigneur. Ils étaient doués d'une très 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 grande spiritualité. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré. Ces gens-là aujourd'hui sont presque tous divorcés. Je pèse mes mots, tous sont dans loin du Seigneur. À tel point que dans notre foyer, Isabelle et moi, on ne supportait plus cette expression « Dieu m'a parlé » quand on l'entendait. Vous comprenez où on en était arrivé d'entendre tout le temps des gens qui disent « Dieu m'a parlé », mais je peux vous dire que dans le comportement, on se dit « Mais c'est pas possible ». Ce n'était pas possible pour nous. Et on ne s'était pas trompé. Pourquoi ? Parce qu'à force de tout spiritualiser, on a enlevé le côté humain. Et je dis que l'humain est bon. Le charnel n'est pas bon. Mais il ne faut pas confondre le humain avec le charnel. Le charnel, nous sommes tous des êtres humains, oui. Est-ce que c'est un péché d'avoir une nature humaine? Est-ce que Jésus a eu une nature humaine? Bon, ce n'est pas un péché d'être un être humain. Il faut quand même séparer les choses. Parce que à force de tout spiritualiser, on va enlever le côté humain et on va passer à côté de bonnes choses que le Seigneur veut. Dans le cas de la communion fraternelle, c'est une bénédiction, le côté humain. Il y a de grandes bénédictions. Et si on veut être dans la volonté de Dieu, il ne faut pas négliger le côté humain. On l'a vu, il faut une affinité, une compatibilité spirituelle, une compatibilité psychique ou intellectuelle, et bien sûr après une attirance physique. On l'a vu, le corps, l'âme et l'esprit, tout ça, ça marche ensemble. Il ne faut pas séparer les choses. Et quand Dieu dit, je le répète parce que je suis amené à le répéter, quand Dieu dit qu'un croyant ne doit pas se marier avec un incroyant, les jeunes, écoutez-moi bien, ce n'est pas pour vous ennuyer que Dieu vous dit ça. Dieu vous aime trop pour vous laisser faire n'importe quoi, n'importe comment. Parce que nous, on aimerait des fois faire certaines choses. Et puis tout d'un coup, on a une foi superbe qui croit que ben celui-là, il va se convertir. Je le convertirai, moi. Je l'aime, il m'aime, je le changerai. Vous savez, moi, j'y crois pas trop au fait de changer les autres. Quand je vois le mal qu'on a à se changer soi-même, je me demande comment on peut changer quelqu'un. J'exagère ou non? Il y a des gens qui ont cru ça. Ils croient qu'ils vont changer les autres. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on peut changer quelqu'un. Je crois qu'il n'y a que la grâce de Dieu. Lorsqu'un homme ouvre son cœur, qui peut commencer à produire un véritable changement. Mais les jeunes, tous les commandements de Dieu sont bons. Tous les commandements de Dieu sont des commandements pour nous protéger. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Tous les commandements. Vous voyez Dieu en train de dire, mais ça, j'aurais pas dû le dire. Oh, ce commandement-là, j'aurais jamais dû le mettre dans ma parole. Ça vous fait rire, ce que je vous dis. Parce que ça vous prouve la prescience et la souveraineté de Dieu.
Tout ce que Dieu nous demande est bon. Et ne cédez jamais à ces paroles de l'ennemi qui dit d'une façon ou d'une autre, Dieu a-t-il réellement dit. Le bonheur, le véritable bonheur repose sur la compatibilité spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une vie de l'esprit, ça veut dire qu'il y a une conversion. Et si vous observez les jeunes filles ou les jeunes garçons, que le futur conjoint que vous envisagez n'est pas spirituel, n'est pas converti, eh bien, abandonnez-le. Et ne commencez pas à spéculer en disant, mais il changera. Je vous dis, moi, j'y crois pas. J'en ai vu des gens pleurer, je vous le dis. Nous avons une âme, c'est vrai que notre âme nous joue souvent des tours parce que nous sommes remplis d'émotions et de sentiments. Mais le Seigneur, il dit, je te donnerai une aide semblable. Dieu, les jeunes, veut vous donner une épouse spirituelle. Et les filles, c'est pareil. Dieu veut vous donner un homme qui marche véritablement dans la grâce de Dieu. Mais il faut du temps pour connaître quelqu'un. Il faut du temps. Il faut du temps. La réflexion, ça vient par le temps. Comment découvrir la volonté de Dieu? Moi, quand je vois des gens qui me disent, ça y est, c'est lui. C'est lui, je l'ai entendu prier. J'avais prié, qu'ils disent ça dans la prière. Il a dit ça dans la prière, il t'a dit qu'il t'aimait, j'avais prié pour qu'il dise... Vous ne connaissez pas ce témoignage, je l'ai lu dans un bouquin, peut-être vous l'avez lu. Cette jeune fille qui priait, elle disait, Seigneur, tu vois, si vraiment ce garçon, c'est ta volonté que ma grand-mère m'envoie un billet de 100 francs lundi. Et le lundi, elle a eu un billet de 100 francs. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les lundis, elle recevait un billet de 100 francs de sa grand-mère. Alors voyez, ça fait, c'est pas sérieux comme ça. C'est pas ce style de réflexion que moi je pense qu'il faut présenter au Seigneur. Le mariage de Rebecca et d'Isaac, c'est quelque chose de profondément exceptionnel. La règle veut que l'on apprenne à voir si on aime vraiment l'autre, et on peut savoir si on aime vraiment quelqu'un si on apprend à le connaître. Au fur et à mesure que vous connaissez quelqu'un, et il faut du temps, vous voyez vraiment ce qu'il est. Parce qu'il y a des gens, ils font du cinéma, vous le savez. La précipitation, elle n'est jamais bonne conseillère. C'est écrit dans la Bible, Actes 19:36, vous ne devez rien faire avec précipitation. Et quand je cherchais ce verset dans ma concordance, je pensais à la nourrice de Méphibosheth, vous savez, qui est partie en se précipitant. Elle s'est précipitée tellement qu'elle a tombé le gosse, et le gosse, il a été perclus des pieds toute sa vie. Et quand on se précipite, on fait souvent du mal aux gens qui sont à côté de nous. Parce qu'on prend des décisions qui rendent les gens à côté de nous boiteux. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La réflexion et la prière, bien sûr. Bien sûr qu'il faut prier. La maturité, ça doit rentrer en ligne de compte. J'y ai fait allusion l'autre jour. Vous savez, les mobiles d'un mariage peuvent être divers, hein. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui me dit « Ouh, j'ai l'envie de me marier parce que j'en ai marre de mes parents », je ne sais pas si c'est un mobile qui tient la route, ça. Vous l'avez jamais entendu, ça? Est-ce que vous l'avez entendu? Moi, je l'ai entendu, souvent. J'en ai marre de mes parents. Je ne l'ai pas encore entendu dans ma maison, heureusement. Se marier, parce qu'il faut faire comme les autres. Oh, on a le même âge, elle s'est mariée. Je me marie, allez, moi aussi. Se marier pour ne plus travailler. Oh, c'est beau, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne soupçonne pas le mal. Mais moi, je peux vous dire que ça aussi, on l'a observé, ça. Des gens qui se sont mariés, comme ça j'aurais plus besoin de travailler. Quand c'est une jeune fille qui pense ça pour l'éducation des gosses, moi je vois pas tellement le mal. Mais quand c'est un garçon, et là je l'ai vu, qui est capable de penser à dire, moi je vais me marier avec cette jeune fille parce que c'est une vaillante, comme ça j'aurais plus besoin de bosser, je pourrais servir le Seigneur, bien entendu, c'est tout le temps pour servir Dieu, vous inquiétez pas. C'est très, 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 très sain. Enfin, entre guillemets, le mot sain. Mais moi, je crois que ce n'est pas comme ça qu'on se marie. On ne se marie pas non plus parce qu'on en a marre d'être seul. La maturité intellectuelle, la maturité physique, bon, à une vingtaine d'années, on est mieux physiquement, ça c'est sûr, mais la maturité affective. La maturité affective, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, la maturité affective? Eh bien, c'est la définition. Aptitude à bien s'entendre avec les autres. Une autre définition, la maturité, c'est la capacité à s'adapter socialement aux autres et à bien réagir en toute situation. Voilà. Quelqu'un est mûr quand il apprend à bien réagir en fonction des situations qu'il rencontre. C'est un peu la définition aussi de,
de l'intelligence. C'est vrai que c'est important de bien réagir. Ce n'est pas parce qu'on nous fait une remarque qu'il faut de suite en faire une affaire d'État. Ce n'est pas parce qu'on se dit quelque chose qu'il faut de suite le prendre comme un reproche. Je le sais, moi, par l'enseignement biblique, c'est sûr qu'on n'est pas... Je ne suis peut-être pas toujours pédagogue, mais moi, j'ai eu prêcher des prédications, les gens me disent « on en a marre de reproches ». Moi, je crois que quand le Seigneur nous donne une parole, il ne faut pas le considérer comme un reproche. Oui ou non? Si on considère tous les conseils comme des reproches, c'est la preuve que l'on n'est pas mûr. Si quand quelqu'un vous dit ça, tu n'aurais pas dû le faire comme ça, peut-être. Ah ben ça y est, je ne sais rien faire, c'est ça. Et voilà, je ne fais plus rien. Ça, c'est un signe d'immaturité. Quelqu'un de mature dit, ah ben merci de me l'avoir dit. Bon, bien sûr qu'il y a la boule. Elle va durer une heure ou deux. Mais après, ça me va. Et on dit, Seigneur, merci pour le frère, pour la sœur qui a osé me reprendre, après tout quand même. C'est ça la maturité. Alors si déjà, entre nous, quand on se fait une remarque, on n'est pas capable d'accepter un conseil, qu'est-ce que ça va être quand vous allez être marié? Quand la lune de miel sera passée, il va y avoir de l'agitation, croyez-moi. Certains comportements ressemblent à des comportements d'enfants gâtés. Qu'est-ce que c'est un enfant gâté? Alors, est-ce que vous connaissez des enfants gâtés? Est-ce que vous avez déjà mangé chez quelqu'un avec un enfant gâté à côté? Vous rappelez du bon, vous rappelez pas du repas, le foie gras ou le bon repas, vous l'avez oublié, mais le repas, dans la voiture, un enfant gâté, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'un enfant gâté? C'est quelqu'un qui exige que ses propres désirs soient satisfaits, et si ses désirs ne sont pas satisfaits, il boude, il crie ou il pleure. Voilà ce que c'est un enfant gâté. Le propre d'un enfant gâté, c'est qu'il ne se soucie jamais des autres. Il ne pense qu'à lui. Il veut son jouet. Je n'ai pas mon doudou, je pleure. Ma femme a gardé des gosses, je sais ce que c'est. Tant qu'il n'a... Alors un enfant de 1 an, quand il n'a pas le doudou, qui pleure, je comprends que ça peut s'expliquer certainement. Mais quand on aborde le mariage dans cet état d'esprit, et que l'on pense que l'autre c'est l'ours en peluche, que... Hein? L'ours en peluche, quand il va se réveiller... Vous allez voir que l'ours, il n'a pas que la fourrure, il a aussi des griffes. Et je rigole, mais je vous assure qu'un enfant gâté, c'est ce qui va lui arriver. Parce que si on ne pense qu'à soi, c'est pour ça qu'il faut régler le problème de l'égoïsme. C'est sûr qu'on est tous un petit peu égoïste. Qui n'a jamais été égoïste? Qui à des moments donnés n'a pas pensé un petit peu qu'à lui? Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça se corrige l'égoïsme. L'immaturité, il faut le régler. La maîtrise de soi, on l'a lu dans 1 Corinthiens au chapitre 13. On peut passer par des cycles plus ou moins, on a des hauts et des bas, il y a des crises, mais quand c'est tout le temps, toujours tout en haut, tout en bas, on a tous des hauts et des bas. Mais vous comprenez, il y a une différence entre ça, et puis entre des bas et des hauts qui ressemblent à l'Himalaya et aux chutes du Pacifique. Vous comprenez, ça ne sert plus à rien. Quand on n'est pas mûr, on ne voit pas les choses comme on devrait les voir. Alors ça fait que ça provoque des conflits inutiles. Mes frères et sœurs, quand on attend que l'autre soit parfait, c'est pareil. On ne s'en sortira jamais. Il n'y a jamais de personne parfaite. Il faut accepter les problèmes. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des problèmes dans un foyer? Quand un enfant est malade, est-ce que c'est un problème, c'est un enfant malade? Ben ouais. Ça, vous qui êtes marié et qui avez des gosses, vous savez ce que c'est quand un enfant est malade? C'est terrible ça, quand un enfant est malade. Il y a des choses terribles dans un foyer. Il y a des véritables agressions. Mais l'égoïsme, ça détruira le foyer. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez rester égoïste, si vous voulez le rester, ne vous mariez pas. En tous les cas, nous voyons quand même si on a été touché par le Seigneur. Parce que moi, je crois quand même que la grâce de Dieu, elle nous délivre de ces mauvais traits de caractère. Non, quand quelqu'un est converti, bien sûr qu'il y avait encore des petits traits de caractère. Chacun pourrait dire, mais toi, tu as encore ce petit défaut. Bon, enfin, j'en conviens, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs, l'Évangile poursuit son travail. Notre frère Rodrigue tout à l'heure priait, Seigneur, fais-nous marcher de mieux en mieux, fais-nous marcher de progrès en progrès. Un homme qui est touché par la grâce de Dieu, il va être délivré de l'égoïsme. Moi, je le crois vraiment. Vous savez, ça vient tout seul, l'égoïsme. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Il y a des choses, elles viennent toutes seules. Mais la parole nous enseigne qu'il faut faire mourir les œuvres de la chair. C'est écrit ça, par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. Le choix d'un conjoint dont implique la prière, la réflexion, la maturité et la pureté. Vous avez vu dans la Bible, il est dit « fuyez l'impudicité ». Je crois, je ne sais pas, je connais la parole de Dieu bien entendu, mais je crois que c'est le seul péché dont il nous est demandé de fuir vraiment. Fuyez l'impudicité ou la débauche, en fonction des versions, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible nous parle de l'impudicité et la Bible nous parle de l'adultère. Il y a une différence entre l'adultère et l'impudicité. D'abord, il y a une chose qui leur ressemble, c'est que tous les deux sont un péché. Mais la différence, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, qu'est-ce que c'est l'adultère ? L'adultère, la définition, avoir une relation avec une personne mariée et en étant mariée soi-même. Une relation sexuelle, bien entendu. L'impudicité consiste à avoir des relations sexuelles ou physiques sans être marié ni d'un côté ni de l'autre. Parce qu'il y a, moi j'ai entendu des jeunes qui m'ont dit, mais on n'est pas marié. C'est pas de l'adultère, on n'est pas marié. Oui, c'est pas de l'adultère, vous avez raison. Mais c'est de l'impudicité. C'est de la débauche. Et la Bible dit que Dieu jugera les débauchés, les adultères, les impudiques. Ils sont perdus. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ne vous amusez pas à utiliser la grâce de Dieu pour dire, comme une jeune un jour m'a appelé, vous savez, on couche ensemble toute la semaine. Et le samedi soir, on demande pardon à Dieu, comme ça on peut prendre la Sainte Cène. Alors écoutez, moi je crois que ça, c'est se moquer de Dieu. La Bible parle du péché volontaire. Et si vous lisez Hébreux, si je ne me trompe pas, chapitre 10, vous verrez que c'est grave, cette situation-là. Si l'Écriture, écoutez bien, ça vient de Dieu, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si l'Écriture demande de rester pure en dehors du mariage, c'est la preuve justement de la maturité. Il ne faut pas voir dans tous les commandements de Dieu une restriction. Voilà, je ne peux pas, c'est une contrainte et tout. Je vous répète, dans tout ce que Dieu défend, il faut en parler aussi, dans tout ce que Dieu défend, il y a la marque de son amour. Lorsque Dieu demande à une jeune fille, à un jeune homme, de rester pur jusqu'au mariage, c'est pour protéger, c'est pour nous protéger. Parce qu'il y a ceux qui sont d'accord pour que les filles restent pures jusqu'au mariage. C'est les garçons en principe qui pensent ça. Moi, je l'ai entendu, ça. C'est normal que les filles restent pures jusqu'au mariage. Mais les garçons, c'est pas grave. Moi, j'ai pas vu ça dans la Bible. Je l'ai entendu, ça. De toute façon, tout ce que je vous dis est le résultat de choses que j'ai plus ou moins entendues, ici ou là. Vous le croyez que Dieu veut nous enseigner le respect, hein ? N'entrez jamais les jeunes dans le chantage. N'acceptez jamais du chantage. Qui consiste à dire, je vous l'ai dit l'autre jour, mais peut-être quelqu'un n'était pas là, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le dire, si tu m'aimes, couche avec moi. Si tu m'aimes, prouve-moi-le. Ça ne sera pas une preuve d'amour, croyez-moi. Vous connaissez l'histoire que j'ai citée l'autre jour, de Tamar, vous connaissez ? Et de sa demi-sœur, qu'il aimait cette jeune fille. Il l'aimait tellement, elle était tellement jolie. Il a confondu, et cette histoire, je suis sûr qu'elle est là dans la Bible, pour que nous comprenions la différence entre le véritable amour et l'attirance, l'attirance physique ou la convoitise. C'est là que la convoitise, parce que trouver qu'une fille soit jolie, est-ce que c'est normal qu'un jeune homme me dise « Oula, qu'elle est jolie cette jeune fille ». Est-ce que c'est normal ? Et l'inverse, qu'une jeune fille dit oh, « Qu'il est beau ce jeune homme ». Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il y a un péché là-dedans ? Non. Une fois, moi j'ai vu un animateur qui a dit ça à un adolescent, il regardait une jeune fille à la tête aux pieds, on voyait bien qu'il la trouvait jolie. Et l'animateur lui a dit, « Hé, pêcheur !» Moi, ça ne m'a pas fait rire. Parce que moi, je trouve que c'est normal qu'un garçon à 17 ans, il découvre que, franchement, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais moi, je n'ai pas vu le péché là-dedans. Et il faut faire attention de ne pas culpabiliser là où il n'y a pas le péché. Découvrir les choses de la vie, c'est une chose. La convoitise et l'attirance sexuelle, c'est autre chose. Il faut être sérieux, parce que sinon on va culpabiliser là où il n'y a pas de véritable culpabilité. En tous les cas, faites attention, cet exemple, il est là pour nous montrer que lorsqu'on cède aux pulsions physiques, aux pulsions sexuelles, eh bien ça finit par des cœurs brisés, des cœurs blessés. Tout le monde est blessé dans l'histoire, de toute façon. Tout le monde souffre. Je sais que Dieu est capable de guérir les cœurs brisés, mais justement, comme je le disais tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. La pureté dans le couple, dans la vie, moi je suis sûr que ça c'est une preuve d'amour. Vous ne croyez pas ? Moi je crois que c'est bien quand une jeune fille, j'ai vu une jeune fille, elle est venue il n'y a pas longtemps, elle a fréquenté un garçon, elle a été très discrète, personne n'était au courant. Elle a fréquenté un garçon pendant 6 mois. Elle est venue dans mon bureau, elle m'a dit « Monsieur Gault, je suis malheureuse, je viens de connaître un échec. » Ah bon ? Alors elle m'a expliqué, elle m'a dit « J'ai fréquenté ce garçon pendant 6 mois. » Et voilà, ça va, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il n'y a rien eu? Et puis on s'est fréquenté, on s'est tenu par la main. Il n'y a eu que ça. Mais oui, il n'y a eu que ça, monsieur. Mais ce n'est pas un échec. Et je lui dis, mais c'est bien. Vous avez pris le temps de parler pendant 6 mois avec ce garçon. Vous avez été sérieuse. Mais elle considérait ça comme un échec parce que ça ne s'était pas fait. Non, l'échec, je vous dis, ça aurait été que vous vous entêtiez parce que quelqu'un vous aurait mis la pression. Là, ça aurait été un échec. Ah bon, vous voyez, il ne faut pas quand même voir le mal partout. Et moi, je crois que c'est bien que les jeunes, même les jeunes de l'Église, d'une façon très discrète, très pure, très intelligente, apprennent à discuter. Et ce n'est pas parce que vous envoyez deux discuter ensemble que de suite, il faut dire « Ah, je vous ai vu, les petits coquins hein ?» hein Je vous ai vu. C'est... Moi, je sais, parce que si vous saviez le nombre de fois où on a marié mes enfants, croyez-moi, si vous saviez, vraiment, si vous êtes loin de vous imaginer. Bon. Moi, je crois que c'est merveilleux, la pureté. Dans le couple, après le mariage et avant le mariage, c'est une grande bénédiction. Tout ça se résume à cette responsabilité. J'aimerais que pour terminer, on relise le proverbe 24, s'il vous plaît. Parce que je crois qu'il y a là une responsabilité. Il nous parle d'intelligence, il nous parle de sagesse, il nous parle de science. Je crois qu'un homme, une femme ont un désir, c'est de protéger son foyer. Quand on veut fonder un foyer, on veut le protéger, avoir une véritable communication, avoir une véritable bénédiction dans son cœur. Prendre, je le répète, prendre le temps d'écouter. Il faut du temps. Ne dites pas, moi, j'ai pas le temps. Eh bien, prenez du temps. Proverbe 24, verset 3. On le relit pour terminer. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et je crois que ce que nous avons partagé ne sont que des leçons de bon sens, en fin de compte. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants. Et peut-être quelqu'un dit, moi je veux ce bon sens, je veux cette sagesse, je veux cette intelligence, je veux être un vrai disciple, quelqu'un d'enseignable, quelqu'un de corrigible, quelqu'un qui est capable d'être enseigné. Vous savez, nous dans l'Église, parfois les anciens, moi-même, et même plusieurs parmi nous, ceux qui dirigeons l'Église, nous savons qu'il y a des personnes, nous ne pouvons rien leur dire. Nous ne pouvons rien leur dire. Et dès qu'on leur dit quelque chose, ils s'en vont. C'est vrai. Et ça nous brise le cœur, ça. Mais des fois, on est bien obligé. Combien de fois on m'a dit, ah mais monsieur Gau, si vous dites ça à telle personne, elle partira. Et les anciens ne se sont jamais trompés. Et je trouve que c'est dommage. Moi, je crois que quand on a été sauvé par la grâce de Dieu, on doit accepter d'être enseigné. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et nous voulons être veillants, priants, cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance, etc. On va prier. Peut-être quelqu'un dirait, a besoin, je veux qu'on prie pour moi. Je ne suis pas ce disciple enseignable. Je ne fais que bouder, je ne fais que râler. Je n'accepte aucun conseil. Si ma femme me dit un truc, je m'énerve. Si mon mari me dit quelque chose, ça m'inquiète. Peut-être que vous éprouveriez le besoin qu'on prie pour vous. Prenons quelques minutes encore. Pendant que Joël va nous faire chanter un cantique, les musiciens, s'il vous plaît, restons recueillis. On est là pour vous aider. Avec les anciens, on est là pour prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.